Et tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous, Christophe Diremzior, bonjour.
Bonjour Julien.
Du football et un bon début des joueuses du tout-puissant Mazembe dans la phase de groupe de la Ligue féminine des champions, la Ligue des championnes au Maroc.
On peut dire ça, effectivement. Victoire 2-0 des Congolaises à El Jadida sur les Sud-Africaines de University of Western Cape. Ça ne permet pas pour autant à la formation de Lubumbashi de prendre la tête de la course à la qualification pour les demi-finales dans ce groupe A, puisque les Marocaines de l'ASFAR ont fait encore mieux. Succès 3-0 sur les Sénégalaises d'Aigle de la Médina. Novice, il est vrai, dans cette compétition. Un écart au score qui traduit aussi un écart certain de niveau, estime Chekba, le président du club.
Ce match démontre encore une fois le fossé qu'il y a entre le football féminin marocain et celui sénégalais. Il y a une dizaine de jours, notre équipe nationale a été battue par celle du royaume chérifien 7-0. C'est dire, nous avons logiquement perdu compte tenu du niveau technique des Marocaines et sûrement de leur niveau de préparation lié à des moyens très très importants. Maintenant, focus sur l'équipe sud-africaine que nous pensons pouvoir battre et espérer nous qualifier.
Chèque bas avec Babacar Fall à suivre aujourd'hui le coup d'envoi du groupe B à Casablanca. Les tenantes du titre, les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, affrontent les Égyptiennes du FC Massar et les Éthiopiennes de CBE sont opposées aux Nigériennes d'Edo Queens.
La route vers la finale, vers la phase finale, pardon, en 2025 de la Basketball Africa League s'est dégagée, Christophe, pour deux équipes de la division Ouest.
Billet en poche, effectivement, pour le Stade Malien et Al Ahly Tripoli en demi-finale de l'Elite 16 à Abidjan. Le club de Bamako a largement dominé les Camerounais de la Kedji Sport Academy 80-57. Beaucoup plus de peur et d'efforts à fournir pour la formation libyenne, victorieuse des Ivoiriens d'ABC Fighters 80-76 seulement. Finale symbolique puisque les deux heureux élus sont déjà connus à 20h temps universel.
Et puis, suite et fin ce dimanche du festival Dakar en jeu.
Oui, ce tout petit aperçu de ce qui attend la future ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Depuis vendredi, animation et démonstration de discipline au programme dans deux ans, rythme la ville afin de familiariser la population à ces sports et surtout susciter des vocations auprès des plus jeunes. Gwendal Lavina.
En plein centre de Dakar, la place de la Nation a des airs de terrain omnisport. Au pied de l'obélisque, des tatamis, des pistes d'escrime ou encore un ring de boxe. Mohamed, 15 ans, découvre justement ce sport et estime que le festival est une excellente chose.
La plupart des gens préfèrent faire du foot, alors que comment dire, la boxe pourrait être plus préférable. Sur le plan physique, elle touche à peu près tous les points, que ce soit les bras, partout, tout le corps en gros. Rester en mauvaise condition physique, ça peut être dangereux pour la santé, surtout tu peux mal vieillir, ça c'est très grave.
Juste à côté, Fatou, 13 ans et demi, a été attiré par la corde à sauter.
Je découvre beaucoup de sports et on est invité à prendre celui qu'on veut. Comme par exemple, il y a le double dutch.
Ça a l'air assez compliqué à une corde, déjà deux cordes encore plus.
Ça a l'air assez compliqué au début, mais c'est pas aussi difficile.
Cet après-midi, c'est Mohamed qui l'encadre.
Déjà, il y a une belle énergie et je suis très content de partager le petit savoir que j'ai, parce que j'en ai reçu aussi, donc pour moi, c'est important de transmettre ça.
Transmettre et surtout aller chercher de nouveaux pratiquants parmi les plus jeunes. Diogou Gueye est président de la Fédération Sénégalaise de Kung Fu.
Après chaque événement, je reçois des coups de fil, des gens qui me demandent par où ils peuvent apprendre le Kung Fu. Donc c'est une occasion, c'est de la promotion pour le Kung Fu Wushu.
Et qui sait, les futurs médaillés olympiques sont-ils peut-être parmi les jeunes initiés pendant ces trois jours. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Et le journal des sports signé Christophe Diremzior. Merci Christophe, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roel.
Et à la une ce matin, le Qatar qui a confirmé hier soir la suspension de sa médiation dans la guerre à Gaza. Doha demande à Israël et au Hamas de faire preuve de volonté et de sérieux dans les négociations. La perspective d'une trêve s'éloigne encore un peu alors qu'un groupe d'experts internationaux met en garde contre l'imminence de la famine dans certaines parties du nord de la bande de Gaza. Israël rejette ces avertissements et affirme avoir accru ses efforts pour faire parvenir de l'aide, avec notamment l'ouverture d'un point de passage supplémentaire vendredi sous pression des États-Unis. Les États-Unis, justement, et la claque électorale qui s'est confirmée cette nuit pour les démocrates, grand chelem pour Donald Trump, déjà élu mais déclaré vainqueur il y a quelques heures dans l'Arizona. Il a donc gagné tous les états clés de cette présidentielle. Et puis la colère hier à Valence, en Espagne, 130 000 personnes dans les rues de la ville dévastée par les inondations, une grande manifestation contre la classe politique et notamment le président de la région épinglé pour sa gestion de la catastrophe qui a fait au moins 220 morts la semaine dernière. Bonjour Clotilde Dumais.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
La revue de la presse avec vous et dans les hebdomadaires français ce week-end, du vert et du noir.
Oui, la couleur de l'espoir utilisée pour symboliser la nature à la veille de la COP29 qui débute demain en Azerbaïdjan. Une nouvelle conférence internationale sur le climat qui se déroule encore après Dubaï l'an dernier chez l'un des plus importants exportateurs d'hydrocarbures de la planète, remarque le Nouvel Obs. En 2024, l'or noir, le pétrole est toujours roi, constate l'hebdomadaire. Et le monde, toujours accro aux énergies fossiles. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie milite donc pour une décarbonation accélérée. Fatih Birol est devenu le poil à gratter des producteurs d'énergie fossile, indique le Nouvel Obs, qui consacre un article à celui qui a cassé le côté club de riches de l'AIE en l'ouvrant aux grands pays émergents. Le Vert également en couverture d'aujourd'hui en France Week-end pour un numéro entièrement consacré à l'environnement, avec un reportage qui nous plonge dans la luxuriante forêt guyanaise à la découverte des pratiques ancestrales des autochtones. Les sociétés amazoniennes pourraient nous réapprendre à préserver nos écosystèmes ou à recréer des relations plus saines entre faune, flore et humains, explique le chercheur Guillaume Audon. Même si là-bas aussi on vit un choc des générations. Cultiver le coton pour tisser son hamac sans remettre au chaman en cas de maladie. De nombreuses coutumes sont aujourd'hui en décalage avec l'appel de la vie moderne, peut-on lire dans ce reportage.
Encore beaucoup de chemin à parcourir donc, et ça ne devrait pas s'arranger avec la réélection de Donald Trump aux États-Unis.
Ce sera l'éléphant dans la pièce de la COP29, écrit Libération. Dans son édition du week-end, le journal prévient, il va falloir faire avec un climato-sceptique assumé et fier de l'être. En matière d'environnement, Donald Trump a l'intention de mettre en place un système de destruction, s'inquiète dans Libération Laurence Toubiana, l'une des architectes de l'accord de Paris, que les États-Unis pourraient de nouveau quitter avec Donald Trump. En l'absence des Américains, Laurence Toubiana mise donc sur la Chine, qui a selon elle tout intérêt à ce que la diplomatie climatique continue de fonctionner pour des raisons économiques. Elle cite également le Brésil et l'Union européenne.
L'Union européenne qui, elle aussi d'ailleurs, est perturbée par le retour de Trump.
La protection qu'apportaient les États-Unis n'est plus garantie, reconnaît le ministre français des Affaires étrangères dans le Parisien dimanche. Les Européens font face à un triple risque existentiel, poursuit Jean-Noël Barrot, l'insécurité généralisée et la guerre sur le continent, le décrochage industriel et technologique et la désintégration du modèle démocratique. La victoire de Donald Trump doit donc servir d'électrochoc, espère dans la tribune dimanche Justin Weiss, le directeur général du Forum de Paris sur la paix. La planète tourne et l'Europe regarde, se désole en attendant Eric Scholl dans son édito dans l'Express en se demandant où sont donc passés les grands dirigeants d'hier. Le célèbre moteur franco-allemand est bon pour la casse, ajoute François-Olivier Gisbert dans Le Point, et rien ne l'a encore remplacé. Au moment où tous les cieux du monde se couvrent de nuages noirs, écrit-il, l'Europe a décidé de retourner avec les vaches regarder les trains qui passent.
Lui n'est d'ailleurs pas un Européen convaincu. Jordan Bardella en tournée dans les médias pour faire la publicité de son premier livre.
Ce que je cherche, titre inscrit sur une photo-portrait du président du Rassemblement National en noir et blanc. Le Figaro Magazine publie des extraits de ses 324 pages. Jordan Bardella se présente comme un enfant des classes populaires, fils de migrants italiens, héritier de la méritocratie républicaine. Il revient sur son enfance en Seine-Saint-Denis, près de Paris, dans la cité Gabriel Péri, et parle aussi de son prénom, qu'il dit avoir eu du mal à assumer. J'ai voulu que les Français saisissent en profondeur ce que je pense et les raisons qui me poussent à le penser, explique Jordan Bardella dans le journal du dimanche. Le président du RN cherche à gommer son appartenance à l'extrême droite, analyse de son côté le Nouvel Obs, en se présentant plus libéral que Marine Le Pen, sans rien renier en réalité de ses obsessions identitaires et autoritaires. Libération est encore plus critique. Dans ce livre au style si mauvais qu'on finit par penser qu'il l'a vraiment écrit tout seul, résume le journal, le dauphin de Marine Le Pen ne parvient guère à se découvrir.
On termine avec des baskets blanches à lacets bleus et rouges portées par un sourire qui a fait chavirer la France l'été dernier.
Celui d'Aurélie Aubert, en une du magazine L'Équipe. Les images de la championne paralympique de Boccia, éperdue d'extase sur son fauteuil une fois victorieuse, ont saisi les cœurs, rappelle le reportage. Depuis son titre, le quotidien d'Aurélie Aubert a explosé et son entraîneuse bénévole la trouve encore fatiguée, même si c'est une combattante, assure-t-elle. orpheline, atteinte d'une paralysie cérébrale due à un manque d'oxygène à la naissance. Aurélie Aubert peine à le reconnaître, mais oui, sa victoire à Paris l'été dernier, c'est une revanche. Dans cette vie pas très simple, elle assure que la boccia est sa bouée de sauvetage. Si l'on m'en prive, je pleure. Quand j'y joue, ma journée est belle. Passé les nombreuses sollicitations médiatiques, Aurélie Aubert espère donc pouvoir reprendre l'entraînement normalement et encore une fois pouvoir porter les couleurs bleu, blanc, rouge, là aussi, signe d'espoir.
Clotilde Dumais pour la revue de presse, merci beaucoup. Bientôt 6h en temps universel et sur RFI, un nouvel épisode de l'Afrique en marche avec la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar qui vient d'ouvrir ses portes au Sénégal. Une illustration de l'essor véritable que l'art contemporain africain est en train de connaître. Les galeries et les fondations se multiplient, les artistes du continent accèdent à une notoriété de plus en plus grande et la vente de leurs œuvres continue d'augmenter, Frédéric Gara.
Sculpteurs, peintres ou photographes, les artistes contemporains du continent ont le vent en poupe. Selon Art Basel en Suisse, l'un des principaux marchés internationaux d'art contemporain, les artistes africains ont vu les ventes de leurs œuvres passer de 47 millions de dollars en 2021 à 63 millions l'année suivante. L'une des conséquences de ce succès, c'est la multiplication des lieux d'exposition en Afrique. Yacouba Konaté, directeur de la galerie de la Rotonde des Arts, l'une des premières à Abidjan.
Si je prends l'exemple d'Abidjan, en 2006, il y avait peut-être 3-4 galeries, mais l'année dernière, on était 11. Ce qui renvoie aussi à l'effectif de plus en plus grand d'artistes pertinents. Moi, j'en reçois au moins 5 par semaine qui viennent me montrer ce qu'ils veulent faire. Et puis, tu as des collectionneurs qui commencent à s'intéresser à cet objet, dans la mesure où tout le débat sur le patrimoine, on incite chacun à comprendre que le patrimoine de demain, c'est l'art contemporain d'aujourd'hui.
Un patrimoine artistique qui a besoin d'être accompagné dans son émergence, au Cameroun et en Tunisie par exemple, l'Agence française de développement soutient 2 centres artistiques. Gaëlle Mareul est la responsable des industries culturelles et créatives à l'AFD.
On a le projet qui s'appelle Banjun Station au Cameroun, qui est porté par Barthélémy Togo, qui a pour objectif de rehausser le niveau et la qualité de production des filières artisanales en Afrique. L'idée, c'est de stimuler la création avec des résidences d'artistes, des œuvres monumentales, de favoriser la professionnalisation des artistes. Alors sur Afrique Créative, c'est le projet Cloud Visual Art en Tunisie, parce qu'il est, propose en fait d'utiliser la plateforme Archive Art qu'ils ont, donc c'est Wafa Gabzi et Khalil Liwan. C'est aussi une plateforme d'expertise en fait dans l'art contemporain. C'est d'avoir en fait une galerie virtuelle pour refléter aussi les tendances digitales contemporaines.
Autre effet du succès artistique, la volonté pour ces plasticiens reconnus internationalement de revenir dans leur pays pour s'investir dans des structures ou des ateliers de création. Olivier Sultan, directeur de la galerie photo RZ à Paris.
Ça, c'est un phénomène relativement nouveau et que je trouve vraiment très important parce que quand on regarde l'essor de l'art contemporain, que ce soit occidental ou chinois ou américain, ça a toujours été accompagné d'un soutien local. Et là, comme le soutien de certaines autorités se fait attendre, les artistes les plus reconnus prennent l'initiative et disent « bon, on ne va pas attendre de nos gouvernements qui mettent la main à la poche, mais on va le faire nous-mêmes ». Donc ça, c'est vraiment très positif. Avant, le succès se matérialisait par une installation en Occident. Maintenant, ça commence à être matérialisé par un retour au pays. Quoi.
Et c'est ainsi que la peintre Bill Kwelani a créé les ateliers SAM à Brazzaville. En ce moment, à Dakar, elle accompagne avec le soutien du fonds Métis d'autres artistes africains en devenir pour qu'ils se confrontent aux réalités du marché à la Biennale.
Oui, c'est ça l'idée qui me vient à l'idée en me disant que non, mais quoi faire pour les jeunes? Vendre à Brazza, c'est pas évident. Ça c'est clair. Donc, je pense qu'un artiste peut passer peut-être une année sans même vendre. Mais par contre, c'est depuis 2014 que j'emmène les artistes à la Biennale de Dakar. Donc, il y a une certaine fidélité où les collectionneurs savent. Donc, je pense que les gens, quand ils entendent parler des ateliers simples, forcément, ils viendront au rendez-vous. Donc, on espère effectivement que les jeunes auront la possibilité de pouvoir vendre.
La Biennale de Dakar attend plus de 400 000 visiteurs d'ici le 7 décembre. Tous ne seront évidemment pas des acheteurs, mais chacun pourra constater la vigueur de la création artistique africaine.
Frédéric Gara pour l'Afrique en marche que vous retrouvez sur RFI.fr. Sur la radio du monde, un nouveau journal dans moins de 3 minutes maintenant. Et d'ici là, un peu de musique pour patienter la rappeuse française d'origine ivoirienne, le Juice, et son nouvel EP intitulé Iconique. Le titre Mapessa est dans notre sélection du mois.
Je fait tellement, tellement prier, tellement penser ce moment. Penthouse, champagne pour le gang, rouge pour échaler à tout moment. La passion fan quand l'amour se mélange à l'argent. J'ai juré que jamais changerai de mental. Cœur de pierre en secret caché un diamant. Too bad bitch from Babi, coquine la dope, tu reconnais ta body. J'ai la couronne sur le poignet, balle dans le panier. Ton jeu bloqué dans mes filets. Frotte comme affilié, bacon en hip, pétation sera jamais affilié. Petit cœur abîmé, ne se mélange pas, un fruit pourri contamine.
J'fais des mappés, ça, maintenant j'peux m'acheter ça. J'suis dans un mode qui pas à la chicha. Rekataka, tout ta travail, mange, sors les mappés, ça. Tabac, pilon, massa, gros faut arrêter ça. On est africain, toujours dans l'exage, jamais deux fois les mêmes peu ça. J'fais des mappés, ça. Rekataka, kouta. J'fais des mappés, ça. Ragatata kuta, je de ma pesa. Ragatata kuta, je de ma pesa. Ragatari,
je traîne pas trop posté à la crib. Manicure, hood baby, fait des gang signs, c'est mes putés. Moi je suis la pimp, on achète en pack, t'es dans la détail. C'est la vraie vie, gros, c'est pas un film. Les fachos se mélangent à la flicka. Il faut pas que je tombe, j'avance sur un fil. Qui tiendra ma main si jamais je déraille? Débrouillard depuis mineur, j'ai plissé dans le viseur. Je dévoile pas tout, là c'est le teaser. Sortir de la misère.
Mapessa et la française Le Juice dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr et le journal dans une minute.
Ragatata kuta, j'fais des mapessa. Ragatata kuta, j'fais des mapessa. Ragatari.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Vietnamien, français, arabe, pidgin, anglais, lingala, suisse, allemand, yoruba. Cette semaine, on va chanter dans toutes ces langues, dans BPM, et tous les sons, sans façon, de Quincy Jones à Myriam Makeba et de Manifest à Faibaba, y seront en bonne position.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM.